Patrick.
Bonjour Michel.
On fait partie de la CAT et on va parler aujourd'hui d'un thème qui nous est très cher, c'est les victimes invisibles de la peine de mort.
Oui, la CAT a rajouté à son mandat la peine de mort. Au début, il n'était que la torture. Et en fait, il est apparu que la peine de mort, c'est typiquement un traitement dégradant, inhumain et complètement sans issue. C'est pour ça que la CAT s'attache maintenant à combattre la peine de mort. Alors, on pourrait dire que la peine de mort, il y a des dégâts collatéraux. Et il y a eu un article de la CAT qui a bien montré ces dégâts collatéraux, en fait. Ça ne touche pas que la personne que l'on assassine, loin de là. Ça touche tous les tenants, toutes les personnes en relation, de près ou de loin, en amont, en aval, avec celle qui va être tuée, finalement, à qui on va ôter la vie. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer par les enfants des condamnés.
Oui, parce qu'apparemment, tu nous dis que ceux qui sont proches sont les plus touchés. Hein, donc, tu vas nous donner un exemple.
Voilà. Donc, on a ce témoignage d'une jeune femme de 29 ans qui s'appelle Alexandra Yakavitskaya, biélorusse, dont le père, Gennady Yakavitsky, a été exécuté en 2016.
Elle nous dit d'ailleurs par un témoignage qu'un mois après l'exécution, elle a reçu une lettre, un simple bout de papier, pour lui dire que l'exécution avait eu lieu. Jusqu'au dernier moment, on espérait un moratoire, que tout allait s'arranger. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Oui, donc cette jeune femme de 29 ans qui a perdu son père dans ces conditions, quoi que le père ait fait, il faut rappeler que toute condamnation à mort par rapport aux enfants, donc d'un parent, eh bien c'est à l'opposé, c'est aux antipodes des droits fondamentaux des enfants de la Convention internationale des droits de l'enfant et d'autres textes internationaux, puisque ces textes parlent d'un principe de non-séparation de l'enfant de ses parents. Or, quand on tue le père ou la mère, évidemment, l'enfant est complètement séparé. Et puis, et bien entendu, l'enfant, il va être aussi dans ses droits essentiels perturbés, atteints. Bien sûr, le droit à l'éducation, le droit à la santé, qui n'est pas la santé, c'est aussi un état de bien-être physique, mental, social. L'enfant a besoin de ses parents. Et comment envisager une enfance paisible, sereine pour un enfant dont un parent a été condamné ? Voilà, c'est des enfants qui grandissent trop vite, qui sont livrés à eux-mêmes et qui subissent le très grand contre-coup de cet assassinat, en fait, de ce meurtre, de cette personne condamnée.
On parle d'une vie orpheline.
Voilà.
Et puis, il y a aussi l'ensemble de la famille, bien sûr.
Alors, les familles de la personne qui a été condamnée, bien sûr, elles sont meurtries. Et on a là le témoignage d'une maman qui fait tout ce qu'elle pense de son rôle de maman pour son fils qui est emprisonné, et sachant qu'on ne sait même pas si sa condamnation est justifiée. Est-ce que tu peux nous lire ce petit témoignage ?
Oui, c'est une maman vietnamienne soutenue par l'ACAT qui nous parle de son fils. « Envoyer de la nourriture à mon fils, lui rendre visite en prison, protester contre sa condamnation injustifiée, soumettre des pétitions... Chaque mois, des 12 années seront les mêmes. Peu importe les autres préoccupations, elles passent après. Bien sûr que je continuerai à lui rendre visite. Maman viendra, peu importe ce qu'il pourra se passer. Maman sera là. Son fils a été condamné injustement. Lorsque je me remémore son image, je suis assaillie de douleur. Pas le genre de douleur qui vous survient une seule fois, mais c'est une douleur continue qui n'a pas de limite.
Oui, donc cette maman, comme tous les proches des condamnés, vit sous une tension psychologique permanente. Il passe de l'espoir au découragement, de la colère à la confusion, durant des procédures qui sont longues, qui sont contradictoires. Et bien sûr, ils ont peur pendant que ce temps que le contact soit rompu, que l'exécution intervienne à tout moment sans être informée. Il y a des pays, par exemple, comme le Japon, ou la Mongolie, l'Ouzbékistan, où les condamnés sont prévenus de leur assassinat, de leur peine, le matin. Et donc, la famille est prévenue après.
Ce qui fait que pendant tous les jours d'avant, ils ont pensé qu'on allait venir les chercher.
Voilà, c'est un...
Et ça, c'est une torture.
Exactement ce que je pensais. C'est une torture qui s'ajoute aux autres. Et donc, les familles des condamnés sont souvent rejetées par leur communauté. Ils sont vus comme des complices, alors qu'ils n'y sont pas pour grand-chose dans ce qui est arrivé. Et ils peuvent même être harcelés par les autorités, comme au Vietnam, où un frère a été incarcéré pendant 2 ans pour avoir essayé de protéger son frère qui était accusé. Donc, et bien entendu, à la clé de ça, il y a aussi les difficultés économiques des familles. Donc voilà, les familles des condamnés qui sont meurtries, qui sont repoussées. Donc voilà certains dégâts collatéraux de la peine de mort, puisque nous, on combat la peine de mort, mais il y en a d'autres. Et on va peut-être continuer après, dans un deuxième temps, tous ces dégâts qui arrivent dans le cadre de la peine de mort.
Tu nous as parlé des proches des condamnés à mort, en rappelant que l'ACAT veut qu'il y ait justice, hein, mais ne veut pas que la justice soit vers une condamnation à mort.
Voilà. Alors, et puis d'ailleurs, on est chrétien, et moi, je ne sais pas, en tant que chrétien, si on peut, dans notre cœur, accepter cette notion de peine de mort. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés parmi les chrétiens pour dénoncer ça.
Alors, on peut rappeler le procès inéquitable de Jésus.
Voilà, exactement. Alors, on, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a tous ceux qui s'occupent finalement des condamnés qui sont aussi touchés, beaucoup plus qu'on ne le pense, qu'il s'agisse des avocats ou des jurés, puisque pour la peine de mort, on fait appel à des jurés, voire même jusqu'au bourreau, aux gardiens qui sont hantés par ce qu'ils ont vécu. Donc on va pouvoir parler par exemple des avocats. Aujourd'hui, un avocat qui défend un condamné à mort, ça peut vous mettre au banc de la société, ça peut même vous mettre en danger. En Malaisie, une avocate nommée Susanna Noliran, qui défend plusieurs condamnés à mort, est boycottée par son voisinage, elle subit des pressions du système judiciaire. Et en Mauritanie, un juriste témoigne que l'une de ses confrères juristes a vu sa photo publiée dans les journaux, la tête inversée, c'est ce qui est synonyme de pendaison. Donc les avocats eux-mêmes de la peine de mort, de condamnés à mort, peuvent être menacés. Et aussi les jurés. Est-ce que l'on peut vivre sereinement lorsque, au nom de la justice, on a donné la mort, puisque de nombreux jurés sont hantés par leur vote? Et il y a un fameux film qui a été écrit par une ancienne jurée américaine dans l'État du Mississippi qui s'appelle Lindy Lou. Et Michel, tu peux nous lire quelques phrases?
Oui, elle est d'ailleurs venue en France.
Hein. Oui.
Pour témoigner de son expérience, j'ai l'impression d'avoir été une jurée aveugle qui ne savait pas comment fonctionnait le système. Je m'interrogeais, est-ce que les jurés que j'avais connus étaient dans le même état que moi en rentrant chez eux?
Donc, elle dit, cette Lindy Lou, qui a d'ailleurs fait un film qui s'appelle, je crois, La dernière marche, sauf erreur, elle dit que la condamnation à mort a vraiment de très lourdes conséquences sur les jurés qui la prononcent. Quand elle est rentrée chez soi, voilà, est-ce que les autres jurés ont connu le même trouble, le stress post-traumatique? Quant aux bourreaux, ceux qui exécutent la sentence, qui sont des hommes comme vous et comme moi, et les gardiens qui les gardent, qu'est-ce qu'ils en pensent? On a l'exemple d'un Américain qui s'appelle Allen Holt, qui était auparavant à la prison d'État de Géorgie, qui affirme qu'une exécution, c'est le meurtre le plus prémédité que vous puissiez voir. Il est bien placé en tant que membre du personnel pénitentiaire. Et il était même bourreau, et après sa 5e mise à mort, il ne pouvait plus exécuter. Tu peux nous lire quelques lignes?
Oui, donc un petit témoignage de ce monsieur. Lorsque j'ai exercé ma profession rituelle de demander s'il avait une déclaration publique finale, ce jeune homme m'a regardé dans les yeux avec des larmes coulant sur ses joues et il a dit surveillant. « Vous êtes sur le point de devenir un meurtrier. Je n'ai pas tué ce policier et mon Dieu, personne ne veut me croire. »
Et ce monsieur Cabana, donc ce bourreau en fait, après l'exécution, il a rencontré un ancien haut fonctionnaire qui était convaincu maintenant que le jeune homme disait la vérité.
Donc son témoignage, peu importe la façon dont nous le faisons, au nom de la justice, au nom de la loi ou de l'ordre, au nom de la vengeance, dit Donald Cabana, vous, quand je vous dis vous, je veux dire de façon générale les Américains, n'avez pas le droit de me demander, ni à aucun fonctionnaire de prison, de tacher mes mains de sang d'une personne innocente.
Voilà le témoignage d'un bourreau, entre guillemets. Et quelque chose de...
On va dire que c'est un exécutif.
Voilà, un exécutif. Très étonnant aussi, ceux qui sont proches des victimes, ces papas, ces mamans, deux filles qui ont été tuées dans des conditions terribles, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent ? Par exemple, nous avons le témoignage de Ronald Carson.
Il nous rappelle que sa sœur a été assassinée au Texas et dont il dit « J'ai cru au mythe selon lequel l'exécution refermerait mes blessures émotionnelles » et fin 2016, il déclarait pourtant que sa famille regrettait profondément l'exécution.
Voilà, on continue la liste de toutes les victimes indirectes de la peine de mort. Eh bien, on finit par la CAT, finalement, par la CAT et par tous ceux qui accompagnent les condamnés. Pour les groupes A4 qui accompagnent des condamnés, le jour où l'on apprend la date d'exécution et où il y a toujours des délais, des moratoires, des délais qui sont donnés, et puis le jour où ça arrive vraiment, les personnes qui ont correspondu longuement par lettre pendant des années, eh bien, qu'est-ce qu'elles ressentent ?
Oui, je voudrais juste donner une petite phrase avant. La peine de mort est à l'exact opposé de la conception de la justice réparatrice.
Et ça, celui qui dit ça, c'est un papa dont la fille a été assassinée.
Voilà. Et donc les correspondants, les différents groupes, nous aussi, on n'est pas en lien avec un condamné à mort dans notre groupe, mais il est plus condamné à mort, il est avec une longue peine, mais enfin, il reste en prison à vie.
Raoul.
Donc c'est eux qui sont confrontés à des moments très forts et très durs sur le plan émotionnel. Chaque fois, on se demande s'il va bien, qu'est-ce qu'il devient. On attend, on a tous été émus par quand on apprend qu'il est exécuté, qu'on a une date précise pour chaque personne. Donc on rentre chez soi, témoignage, j'ai pas pu aller me coucher. D'un seul coup, j'ai vu arriver une nouvelle de sursis d'une demi-heure, de 45 minutes avant l'exécution fatidique. La bataille allait pouvoir recommencer. Ce sont des moments qui marquent. De même pour ce monsieur, on avait aussi manifesté. Un sursis avait finalement été annoncé, mais 5 heures seulement, le temps de débattre pour finalement l'exécuter. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Il n'y a pas de mise à mort propre ou humaine. Ça n'existe pas.
Voilà. Donc on a pu échanger sur tous ces dégâts.
Donc au niveau local, si vous voulez participer à toutes ces actions, on vous donne un site www.a4france.fr et localement Doris Lafont, lafont.doris@wanadoo.fr.
Voilà.
N'hésitez pas à nous joindre.
Venez nous rejoindre, nous, vous, les chrétiens.
Donc, le mois d'octobre, il y aura notre assemblée régionale le 10 et 11 octobre au CRJS à Chartres, 1 rue Jean Monnet. Et puis le 16 novembre et le 14 décembre. Merci Eric.
Merci Michel.